Bonjour Agnès Calamard.
Bonjour.
Vous venez d'être nommée secrétaire générale d'Amnesty International. Vous étiez depuis 5 ans rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires. On va évidemment y revenir. Mais parlons d'abord de votre nouvelle mission. Vous connaissez très bien Amnesty, puisque vous y avez travaillé entre 1995 et 2001. Vous y revenez 20 ans après, en tant que secrétaire générale. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans en matière de droits de l'homme ?
Énormément. Tout d'abord, à l'heure actuelle, en 2021, je pense que les chantiers pour la protection des droits humains sont multiples et multidimensionnels. Quand j'ai quitté Amnesty International, il y avait beaucoup plus d'espoir, je pense, qu'à l'heure actuelle. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous faisons face à une multiplicité de fronts pour la protection des droits. Nous faisons face à la restructuration du système international, d'une nouvelle sorte de guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Ça se conjugue, entre autres, par la course à l'armement et par la multiplication des conflits par proxy, des conflits régionaux. Nous faisons face à la crise climatique en 2000. Certains la connaissaient, mais elle n'était pas du tout présente là. Et pourtant, les implications pour la protection des droits est énorme. La crise climatique, c'est la destruction de sociétés, ouais, d'humanité, etc. Nous faisons face à une révolution industrielle que nous ne comprenons pas. Cette nouvelle technologie qui galope plus vite que nous, à chaque tournant, c'est de nouveaux défis pour nous. Donc, la multiplication des fronts, entre guillemets, même si ce n'est pas forcément la bonne expression, c'est une grande différence par rapport à ce qui était il y a 20 ans.
Amnesty International publie aujourd'hui son rapport annuel qui se penche très largement sur les conséquences de la crise sanitaire. Oui. Et les conclusions de ce rapport sont sévères. Oui. La pandémie aggrave les inégalités, oui, et elle est utilisée par des dirigeants pour intensifier la répression des droits humains. Vous parlez même d'une souche virulente de dirigeants qui, ouais, profitent de la situation partout dans le monde, y compris dans les démocraties.
Absolument. Le rapport d'Amnesty, les thématiques que nous avons retirées de 2020 sont des thématiques universelles, c'est-à-dire que nous allons les retrouver dans chaque région et dans la plupart des pays, il y a quelques exceptions. Donc, comme vous l'avez dit, l'amplification des inégalités, on l'a retrouvée au niveau des victimes premières de la pandémie, qui étaient déjà parmi les populations les plus vulnérables. On la retrouve encore, cette amplification des inégalités, dans les victimes des politiques prises contre le Covid. Des politiques qui n'ont pas été toujours proportionnées, qui n'ont pas toujours pris en compte la vulnérabilité sociale de certains groupes, les sans-logis, les plus pauvres. Dans beaucoup de parties du monde, les travailleurs de l'économie informelle, ils ne peuvent pas survivre. Ça, ce sont des gens qui vivent de jour en jour. Quand on leur dit « vous pouvez plus sortir », ça veut dire qu'ils peuvent plus nourrir et nourrir leur famille. Ça n'a pas été pris en compte dans les politiques. Donc, et comme vous le savez, à l'échelle internationale, donc c'est le message d'Amnesty au niveau de notre recherche, mais c'est le message des économistes. Tout le monde dit l'économie des plus démunis, des plus vulnérables, a subi un assaut en 2020. Donc, amplification des inégalités. Pourquoi ? Parce que pendant qu'ils perdaient tout, il y avait un petit groupe qui gagnait beaucoup. Je parle ici des billionnaires, je parle ici des grandes entreprises de la technologie, de Wall Street, tous ces gens-là, toutes ces institutions-là, elles ont bénéficié. Inégalité qui augmente. Et en plus, le Covid a permis, comme vous l'avez dit, au gouvernement qui était déjà dans une dynamique répressive d'instrumentaliser le Covid. Mais il n'y avait pas que, hein. Il n'y a pas que. C'est-à-dire que le Covid, c'est aussi des mesures exceptionnelles, des mesures d'urgence, oui, qui sont normalisées par les États à travers le monde, y compris les démocraties.
Je l'ai dit, vous avez été donc pendant 5 ans rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires. Quelles ont été les enquêtes les plus difficiles à conduire pour vous ? On a beaucoup parlé par exemple des Philippines ou de l'Arabie Saoudite avec l'affaire de Jamal Khashoggi.
Vous savez, pour moi, la difficulté première ne vient pas forcément de l'aspect technique ou de la question d'accès. La difficulté première vient des douleurs. qui sont soulevées et vient du fait que certaines enquêtes, on fait face à un mur très rapidement. On a du mal à faire avancer le plaidoyer, on a du mal à faire avancer la recherche de la justice. Oui, l'enquête sur Jamal Khashoggi était pénible, était douloureuse. La façon dont il a été assassiné, c'est innommable. Mais on est toujours dans une dynamique d'action. Mmh. Il y a toujours quelque chose à faire pour faire avancer la vérité. Dans les Philippines, jusqu'à récemment, on était un petit peu dans cet état de pensée. C'est-à-dire qu'il y avait toujours quelque chose qu'on pouvait faire. Donc pour moi, l'une de mes enquêtes les plus difficiles, franchement, ça a été celle, l'une des dernières que j'ai faites, c'est sur les journalistes de RFI, de Ghislaine et de Claude.
Parce Dupont que, et Claude Verland.
Voilà,
assassiné en 2013 au Mali.
Exactement, oui. Assassiné au Mali, parce que là, moi et beaucoup d'autres d'ailleurs, on fait face à un mur qui était beaucoup plus présent.
Vous trouvez que les autorités françaises, ça a été d'ailleurs l'une des dernières choses que vous ayez faites dans votre poste à l'ONU, c'est d'envoyer une lettre au gouvernement. Vous trouvez que les autorités françaises ne sont pas assez coopératives?
En tout cas, les autorités militaires
sont sous la tutelle du chef de l'État.
Oui, bon, ouais. D'accord. Je dirais que les autorités militaires ont utilisé le secret défense, continuent d'utiliser le secret défense à des fins qui vont à l'encontre de la recherche de la justice. Donc, même si je reconnais le travail important qui a été fourni par les juges, il ne fait aucun doute qu'à l'heure actuelle, il y a une grande difficulté à faire progresser ce dossier, et en particulier parce que le secret défense prédomine et parce que d'autres intérêts prédominent. Mmh. N'oublions pas que le commanditaire présumé de l'assassinat de Ghislaine et Claude est à l'heure actuelle l'un des interlocuteurs privilégiés du Mali pour faire avancer certains dossiers. Et quand on dit interlocuteur privilégié du Mali, la France n'est jamais très loin. On sait très bien que ce qui s'est passé au mois d'octobre, quand les otages français ont été remis en liberté, que la France était présente à ce moment-là, et que c'est à ce moment-là que le commanditaire du meurtre de Ghislaine et Claude était absolument le rouage de cette politique. Donc, le secret défense, des intérêts supérieurs qui prédomine sur quoi? Sur la recherche de la justice, sur la recherche de la vérité.
Très rapidement, y a-t-il pour vous aujourd'hui encore une patrie des droits de l'homme?
Il y a des actions pour la protection des droits humains. Il y a une volonté à travers la société civile, à travers d'autres acteurs, de protéger les droits humains. Mais le fait que la France soit à l'origine de la déclaration de 1789 ne nous immunise pas contre les violations et la création d'attaques contre la protection.
Merci Agnès Calamard. Bonne journée.
Merci.